Bonjour et bienvenue, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec vos rendez-vous du samedi. Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, ce sera dans un instant. Et puis de la démocratie en Amérique, ce sera le débat du week-end à J-3 avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Et même si 70 millions d'électeurs américains se sont déjà rendus aux urnes, est-ce qu'on est devant la fin d'une ère? Est-ce qu'on est en train d'assister à l'aube de quelque chose? Le Trumpisme notamment, devra-t-il ou a-t-il vocation à durer au-delà de cette élection présidentielle et au-delà même du destin de Donald Trump? On en parle avec notre invité, c'est l'une des meilleures spécialistes des États-Unis. Elle est chercheuse et elle s'y est même installée. Elle est docteure en sciences politiques, chercheuse invitée à la Brookings Institution de Washington DC, dans la capitale des États-Unis. Elle est également l'auteur d'un livre important, Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump. Et c'est une question effectivement qui est posée aujourd'hui aux Américains, celle du choix. Les Américains devant le choix de leur destin. Rendez-vous avec Célia Belin dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et on commence avec le duel, Natacha Polony, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Et heureux de vous retrouver au terme d'une semaine particulièrement intense, particulièrement sombre. Et on va prendre le temps de revenir sur quelques-uns des grands faits qui ont marqué ces derniers jours. Et on va évidemment commencer par le terrorisme et par l'attentat islamiste à la basilique Notre-Dame de Nice cette semaine qui a fait 3 morts jeudi.
En France, il n'y a pas de place pour ces gens-là. On va rentrer dans une église, on coupe la tête. Ça, c'est pas possible. Je suis musulmane, je n'ai pas peur de ces gens-là. Ces connards-là, s'ils ont le courage, ils n'ont qu'à venir me voir. C'est des voyous, des gens qui se considèrent comme des musulmans. C'est pas des musulmans, c'est pas possible.
Vous venez d'entendre la voix en colère d'une femme, qui se revendique musulmane. On entendait son émotion, c'était à Nice jeudi, après donc l'attaque djihadiste à la basilique Notre-Dame de Nice, moins de 2 semaines après l'assassinat de Samuel Paty. Gilles, comment comprendre que ça se répète, que malgré les efforts mis en place, malgré les nouveaux dispositifs mis en place par le gouvernement, cette histoire-là semble se répéter sans qu'on puisse y mettre un terme?
Elle semble se répéter et elle risque de se répéter parce que nous sommes engagés dans un combat qui est un combat qui va durer longtemps. En venant ici, je me disais qu'il y a des sujets dont j'aurais aimé parler ce matin. La mobilisation des femmes en Pologne contre la quasi-interdiction de l'IVG après la décision du tribunal constitutionnel,
oui.
Et bien d'autres sujets. Mais encore une fois, on est assailli par des crises aiguës et je crois que c'est ça qui est extrêmement frappant et extrêmement troublant pour beaucoup de Français, de crises simultanées. On a 4 crises entre la crise sanitaire, la crise terroriste, la crise économique, la crise climatique qui est derrière ça, qui sont là en même temps et qui provoquent, je crois, un sentiment chez beaucoup de Français de chaos. C'est-à-dire d'un moment dans lequel les choses se délitent. Alors, on entend la colère de cette femme qui est la colère de beaucoup de Français et je crois qu'on redoute aussi les conséquences que cela peut avoir pour notre démocratie. Il y a plusieurs fois, j'ai parlé ici de ce qui était l'état, la manière dont je caractérisais l'état de la démocratie, une démocratie à l'état gazeux.
Oui.
Après l'état gazeux, il y a un quatrième état de la matière qui s'appelle l'état plasma. Eh ben, le risque, c'est que on s'approche de cette crise-là. Quand je vois, je termine par ça, que Marine Le Pen est en tête des personnalités considérées comme les plus à même de lutter contre le terrorisme.
Avant de donner la parole à Natacha, juste un mot d'explication. L'état plasma après l'état gazeux, qu'est-ce que c'est?
L'état plasma, c'est l'état qui caractérise, par exemple, la foudre. Les aurores boréales, donc des phénomènes extrêmement extrêmes.
Natacha.
Je pense que, en effet, il y a chez beaucoup de Français l'impression de vivre un moment crépusculaire. Et cette impression-là est extrêmement dangereuse parce que le désarroi qui peut naître de cela peut aboutir à des choix qui seraient des choix extrêmes. Je suis bien d'accord. Et je crois que il appartient à tous, et en particulier à tous ceux qui ont une voix, une expression publique, d'essayer d'œuvrer pour éviter cela. Et je pense par exemple au rôle des médias. Faire entendre la voix de cette femme dont nous entendions la colère à l'instant est absolument essentielle, parce que elle reflète le sentiment de beaucoup de Français de confession musulmane, et il faut qu'on les entende. Il faut qu'on les entende parce que l'immense danger et la volonté des extrémistes de tous bords, c'est-à-dire des islamistes, mais aussi des extrémistes identitaires d'extrême droite, tels que celui qui s'est attaqué, enfin qui voulait s'attaquer à des gens à Avignon.
Oui.
Leur volonté, c'est justement de créer une fracture, un « eux et nous » qui serait « eux, les musulmans, et nous, bah, les autres ». Sauf que nous voyons que c'est faux, et nous voyons que tout l'enjeu, c'est d'éviter à tout prix que cela puisse être perçu par certains comme ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet attentat de Nice intervient dans un contexte qui est un contexte international. C'est-à-dire que il y a là un attentat qui est en quelque sorte téléguidé. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part de certaines puissances, et je pense évidemment en premier lieu à la Turquie, de déstabiliser la France pour des raisons qui sont des raisons à la fois de politique interne de la Turquie et pour des raisons de domination sur les musulmans du monde. Et là aussi, c'est un enjeu que nous devons avoir en tête. Pourquoi ? Parce que la réponse, c'est de rappeler que il n'y a pas les musulmans et les autres, il y a les Français, les citoyens français quels qu'ils soient, et puis c'est des citoyens d'autres pays. Dernier point, je crois il y a eu une réflexion qui est née ces derniers jours et qui me semble essentielle à mener et qui ne doit pas être abandonnée aux extrémistes, aux politiciens les plus intéressés, c'est la réflexion sur l'état de droit.
Oui.
Je lisais il y a quelques jours dans Le Figaro un texte passionnant, une réflexion de Marcel Gauchet qui rappelait que nous avons tendance à brandir l'état de droit et à nous empailler en fait sur cette question de l'état de droit en oubliant une chose. D'un côté, enfin, ce qui apparaît et de façon très simpliste, ce serait d'un côté ceux qui diraient mais il faut préserver l'état de droit à tout prix, donc ne faisons rien, et ceux qui disent en face l'état de droit n'est plus efficace, et on l'a entendu ces derniers jours dans la bouche de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti, de Christian Estrosi, avec presque, et c'est là le pire, plus de virulence de la part des Républicains que de la part du Rassemblement national. Eh bien, cette réflexion, je partage les idées que mettait en avant Marcel Gauchet, est mal posée. C'est-à-dire que rien dans l'état de droit ne condamne à la faiblesse. En revanche, nous devons réfléchir à la façon dont nous appliquons cet état de droit, et surtout d'un point de vue démocratique, comment il se joue, comment il se met en place, sans fragiliser la volonté des citoyens. C'est-à-dire que c'est une articulation assez complexe entre les règles de droit élaborées et qui doivent absolument être préservées, et la volonté du peuple, du démos, qui ne doit pas être dissoute par un état de droit qui serait en fait confisqué par des instances non élues. Et c'est cette articulation qu'il faut penser de façon extrêmement fine pour éviter la caricature qui nous mènerait forcément à la remise en cause de la démocratie.
Gilles Finkelstein.
Oui, il faut éviter la caricature, mais quand j'entends Christian Estrosi dire il faut s'exonérer des lois de la paix, Marine Le Pen dire il faut une législation de guerre, et peut-être de manière plus explicite Éric Ciotti dire il faut arrêter avec la défense des pseudo-libertés individuelles, on voit que derrière l'état de droit, ce qui est en cause de manière plus précise, c'est la hiérarchie des normes et notamment le rôle du Conseil constitutionnel comme gardien des libertés, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des principes proclamés après la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que là, il y a un danger qu'il faut pointer. Depuis 5 ans, c'est-à-dire à un moment où la vague terroriste était beaucoup plus haute, où les moyens de l'État islamiste étaient beaucoup plus importants, on a réussi à renforcer les moyens du renseignement, on a réussi à modifier beaucoup de législations sans que l'état de droit ne soit mis en cause. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à faire. On peut y revenir.
On va en parler.
Il faut veiller à ce que derrière cette idée quand même de remise en cause, non pas de l'état de droit, mais disons de ce qui constitue le contenu de l'état de droit, derrière des propositions comme « on peut détenir les gens de manière arbitraire, c'est-à-dire sans qu'ils aient commis d'actes, on peut étendre la reconnaissance, on peut étendre la reconnaissance faciale à tout et à n'importe quoi », que dans ces équilibres-là, il faut poser les deux bas, mais je crois qu'il faut être vigilant.
Natacha, justement, comment répondre à Gilles et à la nécessité de protéger malgré tout ce qui constitue le fondement même de la République, à savoir les lois? Les droits de l'homme étaient critiqués par Marcel Gauchet depuis longtemps, et c'est vrai que dans son texte du Figaro, le philosophe français montre que la menace terroriste doit inciter les démocraties libérales à remettre en cause certains des droits qui nous paraissent évidents et qui nous paraissent légitimes. Comment comprendre justement, enfin, ce qui apparaîtrait comme un recul des libertés et des droits fondamentaux pour beaucoup?
Alors, premier point, toute ma démonstration visait à expliquer exactement comme Gilles à quel point il fallait préserver nos lois et les règles démocratiques. Deuxième point, je pense que Marcel Gauchet n'a jamais critiqué les droits de l'homme en tant que philosophie, mais la façon dont il devenait une forme de mantra qui évitait de penser cette articulation entre démocratie et lois et normes générales. C'est-à-dire que à partir du moment où ces lois fondamentales sont interprétées par des juges non élus qui font évoluer la démocratie vers un système jurisprudentiel, là nous avons quelque chose qui peut avoir tendance à déséquilibrer les institutions démocratiques, et c'est à cela qu'il faut réfléchir. Et autre point qui me semble essentiel, je pense que la plupart des citoyens français n'ont aucune envie qu'on remette en cause les libertés individuelles, les fondements de la philosophie des droits de l'homme. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est de savoir comment on fait dans des structures aussi complexes que les nôtres pour assurer les fondements d'une souveraineté de la part du peuple en tant que communauté politique. Un point, par exemple, qui est en train de surgir, c'est la question migratoire. Nous voyons à quel point les derniers attentats ont été commis par des immigrés de plus ou moins fraîches arrivées, et on voit avec notamment le terroriste de Nice, comment l'incapacité de l'Europe à gérer la question migratoire nous empêche de savoir, enfin de maîtriser, même si le risque zéro n'existe pas, mais nous empêche de maîtriser un tout petit peu la question des gens qui arrivent sur notre territoire. Est-ce qu'ils adhèrent à notre modèle? Est-ce qu'ils... Vous voyez, le fait que le terroriste de Nice soit arrivé par Lampedusa et qu'on lui ait dit « Monsieur, veuillez retourner sur votre territoire en le laissant libre », la plupart des gens se disent « Mais c'est incompréhensible ». Donc pour éviter qu'on en vienne à des solutions qui seraient des solutions d'abord, à mon avis, impossibles, comme l'immigration zéro, ou à des choses qui seraient contraires aux droits des individus, je pense qu'il faut réfléchir de façon conjointe à la question de l'efficacité.
Et la difficulté, c'est vrai, c'est que cet individu n'était pas fiché S, il est passé sous les radars des services italiens et des services français. Encore un mot, Gilles, avant chapitre.
Ce qui était aussi le cas de l'assassin de Samuel Paty. Juste un mot sur le débat, qui n'est pas seulement un débat théorique qu'a lancé Natacha Polony. Que la souveraineté populaire puisse et été limitée peut-être à l'excès par une forme de dessaisissement et d'affaiblissement de l'État, du pouvoir politique, du pouvoir exécutif, notamment par le transfert de ses pouvoirs à un certain nombre d'autorités administratives indépendantes, d'agences. Ça, il faut regarder les choses dans le détail et peut-être qu'il y a des équilibres nouveaux à trouver. En revanche, le Conseil constitutionnel, quand il veille au respect de la hiérarchie des normes, de la Constitution, de la Déclaration, de la Déclaration des droits de l'homme, s'il rend des décisions que une majorité politique considère comme inadéquates, eh bien, il y a une voie qui s'appelle la révision de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution, il est le gardien de la Constitution, et donc la légitimité populaire peut, si elle est suffisamment nombreuse, s'il y a une majorité pour réviser la Constitution, eh bien, elle peut le faire.
Il est midi 20, le duel continue sur France Inter.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Mais j'ai confiance en nous, en vous. Confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve. À nouveau, nous nous relèverons si nous sommes unis et nous serons unis. Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Je serai là, nous serons là et nous y arriverons tous ensemble.
C'était le président de la République, évidemment, mercredi soir à la télévision devant 32 millions de Français, en annonçant à ce moment-là un nouveau confinement ou un confinement nouveau, Natacha. Je vous pose la question parce qu'on a le sentiment que ce n'est pas l'éternelle répétition du même, mais en l'occurrence quelque chose d'assez inédit que nous vivons. À nouveau, les sentiments que nous ressentons, notre rapport à ce confinement, les règles également qui ont changé pour partie par rapport au premier, à l'épisode 1, comme on dit, du confinement, bah, ça installe quelque chose à laquelle nous n'étions pas prêts. Natacha ?
Je pense que, surtout, moi, ce qui me frappe, c'est surtout l'expression d'une colère de la part des gens qui respectent les règles. C'est-à-dire, je vous parle pas de ceux qui sont allés manifester contre le confinement, qui étaient, d'ailleurs, c'était assez marginal, mais ceux qui l'ont fait. Non, je vous parle de ceux qui ont respecté totalement le premier confinement, qui ont respecté les règles qui leur ont été imposées pour adapter leur commerce, leur activité à la protection contre le coronavirus, et qui, là, sont en train d'utiliser les règles de droit, justement, dont nous parlions à l'instant, parce que j'ai jamais dit qu'il fallait changer la Constitution, c'est la question de la jurisprudence qui m'intéresse. Mais donc, qui sont en train de demander à ce que les règles de droit les protègent. Je suis frappée de voir à quel point là, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez des groupes de commerçants, d'hôteliers qui s'organisent pour demander des référés parce que ce qui les a choqués, c'était par exemple le terme employé par le président de la République de commerce non essentiel.
Oui.
Et il y a eu là un sentiment d'injustice absolument terrible. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une règle, une décision qui vient d'être prise par le gouvernement qui est très importante, c'est l'interdiction de vente de livres par la grande distribution. Pourquoi c'est très important ?
Et les grandes surfaces comme la Fnac ou Carrefour.
Parce que ce que provoque ce confinement, c'est une injustice majeure entre les petits et les gros. Et ça c'est devenu par rapport au premier confinement, insupportable aux gens. C'est-à-dire que ils ont l'impression d'être sacrifiés alors que d'autres vont s'en tirer. Et donc là, je pense que le gouvernement est en train de chercher une manière de répondre à cela. Ils n'ont pas encore trouvé. Parce que, de fait, vous allez continuer à avoir des petits commerçants qui vont crever et vous allez continuer à avoir des grandes surfaces qui peuvent continuer à vendre ce qui est interdit à la vente ailleurs. Mais s'il n'y a pas une action rapide sur ces points-là, alors la colère qui est en train de monter, et encore une fois de la part de gens qui sont ceux qui respectent les lois, risque d'être là aussi éminemment dangereuse.
Et on a vu d'ailleurs que de nombreux maires avaient commencé à signer des arrêtés municipaux qui autorisent l'ouverture de ces commerces de non-première nécessité, je mets l'expression entre guillemets, un peu partout en France. Et l'Association des maires de France, justement, déclarait qu'ils pensaient, ces maires, que ces commerces de proximité devaient continuer à pouvoir vivre, comme vous le disiez, Natacha. C'est une manière de contourner le confinement, Gilles ?
C'est ce que, quand vous dites ce n'est pas un nouveau confinement, mais c'est un confinement nouveau, je crois qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que les règles pour partie sont différentes, et elles sont différentes notamment sur un point absolument majeur qui est la réouverture ou l'ouverture des écoles, des collèges, des lycées, parce que ça fait plus de 10 millions à la fois d'enfants et d'enseignants qui vont être dans la rue alors qu'ils ne l'étaient pas lors du premier confinement. Mais il y a surtout un confinement nouveau parce que le respect ou le rapport à ces règles a évolué.
Oui.
C'est vrai, des maires, vous venez de l'évoquer, on voit la multiplication d'arrêtés, dont je pense qu'ils sont illégaux, mais d'arrêtés visant à contourner le licenciement, le confinement, pardon. On voit les commerçants refuser aussi de fermer, et on voit même dans les enquêtes qui ont été réalisées depuis la déclaration d'Emmanuel Macron, un pourcentage significatif de Français, 22% dans une des enquêtes, qui dit « je vais respecter le confinement, mais avec un certain nombre d'exceptions, ce qu'on ne voyait pas lors du...
C'est-à-dire des individus qui disent « je vais respecter en gros le confinement, mais ce qui m'arrange pas trop... »
En gros, je vais respecter en gros.
D'accord.
Bon, tout cela étant vrai, mais j'insiste sur un point, on a vu les effets que produisait la peur liée à la montée des hospitalisations, des réanimations, des décès. Quand on écoute en creux, et pas seulement en creux, ce qu'on dit à la fois le président de la République et le président du conseil scientifique, eh bien, cette peur, elle peut aussi revenir et modifier les comportements dans les prochains jours.
Natacha, je voulais avoir votre point de vue à vous et à Gilles sur un phénomène qui paraissait évident à beaucoup de Français au moment du premier confinement, qui était de se donner rendez-vous le soir à 20h pour applaudir les personnels soignants. Et c'est pas du tout le cas ce moment, enfin, cet épisode-ci du confinement, et ça choque même beaucoup qu'on puisse évoquer l'idée de se retrouver à 20h pour exprimer à la fois notre reconnaissance et une forme de solidarité dans l'épreuve avec ceux qui sont en première ligne.
Souvenez-vous que les premiers à avoir émis un doute sur ce genre de manifestation étaient les soignants eux-mêmes, qui disaient qu'en gros ils attendaient un peu autre chose que des applaudissements. Et nous avons vu durant tout l'été à quel point, en effet, il aurait été préférable, plutôt qu'une sympathique reconnaissance, d'essayer de répondre aux besoins de l'hôpital public et d'essayer de mener une véritable politique. Non, l'un n'empêche pas l'autre, mais je pense que nous n'en sommes pas là, c'est-à-dire que je pense que évidemment que les citoyens sont toujours et reconnaissants aux soignants, à tous ceux qui se dévouent absolument, mais nous sommes passés dans une phase plus politique, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire plus politique au sens plus crispé aussi, mais surtout plus politique dans le sens où on n'est plus dans l'émotion là, on est dans la réflexion sur ce qui doit être, les arbitrages qui sont faits, et c'est la question de savoir si ces arbitrages sont justes, si les sacrifices qui sont faits permettent d'aller vers le mieux ou au contraire vont avoir un coût démesuré. C'est tout cela qui se débat. Et dans un sens, il eût fallu poser ces questions peut-être un peu plus tôt et sortir peut-être un peu plus vite de l'émotion. Juste une chose, un dernier point aussi, il y a l'émotion, oui. Et puis il y a l'inconscience. Moi, je voudrais juste dire que j'ai été consternée de voir le visage qu'avait Paris jeudi soir, avec des terrasses absolument pleines, des gens les uns sur les autres, sous prétexte que, comme il y avait le confinement, il fallait prendre un dernier verre. Quand je pense encore une fois à, non seulement aux soignants, mais à tous ceux qui ont respecté les règles, qui se sont donné du mal et qui vont crever parce qu'il y a ce nouveau confinement, et je trouve ça absolument affligeant. Pardon, voilà, c'était la colère du jour.
Gilles.
Oui, alors c'est au-delà de la colère de Natacha, quand on regarde l'état d'esprit des Français, parce qu'il y a 4 enquêtes qui ont été faites depuis l'intervention du président de la République, je crois que c'est assez significatif. On a un assentiment assez résigné, mais un assentiment quand même. L'intervention du président de la République a été réussie, elle a été très suivie, vous l'avez dit Ali, elle a été très largement approuvée. Il a été jugé convaincant, ce qui n'est pas toujours le cas, et les mesures ont été pour l'essentiel soutenu et parfois avec des majorités très importantes, y compris la décision de confinement, on est avec les 2/3 des Français. Mais, et c'est là où on arrive sur la colère, on voit que la confiance dans le gouvernement pour gérer cette crise est une confiance qui est minoritaire, qui reste au niveau où elle était à la sortie du premier confinement, aux alentours de 40%. Et on voit très vite, il y a eu une analyse de 1 million de tweets sur les réseaux sociaux qui a été faite par un institut dans le soir même de l'intervention du président de la République. On voit que à nouveau sont pointées, comme toujours, les incohérences, les contradictions, cette idée que la situation est pire qu'en mars, mais que les mesures sont plus souples. Et ça va, je crois, beaucoup se concentrer sur la question de l'école.
Un mot justement, Natacha, à propos de l'école, avant de passer au prochain sujet et de retrouver notre invitée Célia Belin en direct de Washington. Que peut-il se passer dans les écoles? Comment vont faire les profs lundi lorsqu'ils vont retrouver leurs élèves et que on ne sait plus exactement ce qu'ils devront faire puisque les directives du ministère ont changé? Faudra-t-il rendre hommage à Samuel Paty, une minute de silence à l'intérieur des classes, dans la cour? Faudra-t-il leur expliquer les caricatures? Et puis il y aura évidemment les nouvelles règles sanitaires à respecter au sein des établissements. Bref, comment cette rentrée va être possible?
Alors, pour la question des règles sanitaires, je pense que tous les établissements scolaires sont en train de se donner énormément de mal pour essayer là aussi de s'adapter, de remettre en place un protocole plus lourd. Et moi, je pense que, j'ai toujours pensé qu'il fallait traiter les enfants de façon, en présumant leur intelligence. Et donc, je vois pas pourquoi on considérerait qu'ils ne sont pas capables de porter des masques à partir de 6 ans. Ça, c'est pour la question sanitaire. Après, en effet, je suis effarée de voir l'hommage à Samuel Paty se réduire comme peau de chagrin. Et bien sûr, on a vu certains syndicats laisser entendre qu'il fallait laisser la liberté pédagogique aux professeurs, etc. Donc on voyait surgir des voix divergentes de partout. Pour autant, le retrait là, tel que nous le constatons, et cette espèce de non-décision totale, me semble effarante. Je crois qu'il ne faut renoncer à rien, et surtout pas à parler aux élèves, à les faire réfléchir, à mettre en place cette pédagogie qui est absolument nécessaire, plus que jamais. Donc là, je suis, consternée.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Dernier sujet avant de faire cap sur les États-Unis rapidement. Gilles et Natacha, vous vouliez qu'on s'arrête sur la question turque et notamment sur ce qui se joue, ces relations extrêmement compliquées non seulement entre l'Union européenne et la Turquie, mais évidemment entre la France et la Turquie et ce qui se joue avec certains manifestants pro-turcs par exemple dans certaines villes du territoire national. On a vu jeudi dernier par exemple le rassemblement de quelques dizaines de manifestants pro-turc. Une enquête a été ouverte après cette scène assez surprenante. C'était juste avant l'entrée en vigueur du confinement avec des manifestants qui se revendiquaient de la Turquie avec des drapeaux, des fumigènes qui s'organisaient en cortège avant d'être dispersés devant la gare par la police. Pourquoi, Gilles, vouliez-vous vous arrêter sur cet événement qui n'en est peut-être pas un ou en tout cas qui n'est peut-être pas un phénomène majeur?
On n'a pas vu des images surprenantes, on a vu des images qui étaient des images absolument inacceptables. C'était vrai à Vienne, ça a été vrai à Dijon, de manifestants qui violaient toutes les règles et qui surtout menaçaient la communauté arménienne.
Oui.
Moi, je voudrais non pas partir de la France, mais partir de la Turquie pour arriver à la France. Parce que l'image que l'on a est celle d'une surpuissance du président Erdogan. La réalité est exactement l'inverse, on a un affaiblissement politique, depuis qu'il a perdu les deux principales villes aux élections municipales, et il est aujourd'hui devancé par ses maires dans les intentions de vote pour la présidentielle. Il y a un échec économique. La puissance économique de la Turquie est maintenant un leurre. Le PIB par habitant est inférieur à ce qu'il était en 2007. Et il y a surtout un isolement stratégique. Il n'a réussi ni son intégration au monde occidental par l'Union européenne ou par l'OTAN, ni de prendre le leadership sur le monde musulman. Et donc la seule histoire qu'il peut raconter est celle d'un nationalisme religieux avec une agressivité extérieure pour masquer son affaiblissement intérieur. Et ça se porte notamment sur la France. Ça se porte sur la France parce que c'est un pays laïque et qu'il y a là la mauvaise conscience de la trahison d'Atatürk. Mais ça se porte aussi sur la France parce que c'est Emmanuel Macron qui est en pointe contre la Turquie, à la fois à l'extérieur et, on revient au premier sujet, à l'intérieur, dans la loi sur le séparatisme qui a été évoquée, la modification sur les imams, la modification sur l'enseignement des langues et cultures d'origine, eh bien, c'est d'abord la Turquie et l'influence d'Erdogan en France qui est touchée.
Natacha Polony.
Oui, je souscris totalement à tout ce que vient de dire Gilles. J'ajoute un point. Nous avions juste avant l'attentat de Conflans sorti dans Marianne une enquête justement sur les réseaux turcs en France, sur l'infiltration de ce mouvement de ultranationaliste turc que sont les loups gris, que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre. La question, en effet, est celle de la mise en danger de cette infiltration par la loi sur le séparatisme. Et c'est là où il va falloir, à terme, aller au bout de cette logique.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Célia Belin.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Donald Trump, c'était mardi lors d'un meeting de campagne, l'un de ses très nombreux meetings qu'il tient ces derniers jours dans le Michigan.
Trois semaines après le début de sa présidence, ils vont dire « Kamala, t'es prête ? On y va ?» C'est pour ça qu'ils parlent du 25e amendement de la Constitution. Je leur donne trois semaines. Joe flingué et ils vont dire « On y va, Kamala ». La personne la plus à gauche ne peut pas devenir la première femme présidente.
Donald Trump, qui choquait encore une fois donc lors de ce meeting dans le Michigan, il citait le 25e amendement de la Constitution américaine. C'est celui qui explique la procédure par laquelle un président serait ou peut être remplacé par son vice-président en cas de vacances, en cas de décès. Et Donald Trump évoquait, insinuait que Joe Biden pourrait être flingué au bout de trois semaines de présidence et remplacé par Kamala Harris. Voilà pour l'effet de contexte, voilà pour l'un des extraits de discours de Donald Trump. La parole maintenant à Joe Biden. C'était le 23 octobre lors de son deuxième débat présidentiel face à Donald Trump.
220 000 morts américains. Tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas responsables, ces personnes ne devraient pas rester aux responsabilités. C'est le cas du président des États-Unis. Il y a 1000 décès par jour aujourd'hui et plus de 70 000 nouveaux cas par jour. Portez ces masques et ainsi nous pouvons sauver 100 000 vies.
Bonjour Célia Belin.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Il est tôt, il est encore très tôt chez vous à Washington DC où vous habitez, la capitale américaine. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse invitée à la Brookings Institution de Washington DC qui est l'un des think tanks les plus importants en recherche sur les sciences politiques aux États-Unis. Vous êtes l'auteur d'un livre passionnant, Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump, livre que vous aviez publié avec la Fondation Jean Jaurès. C'est aux éditions Fayard. Merci d'être avec nous pour essayer de comprendre ce qui se joue dans cette très étrange campagne électorale américaine qui touche à sa fin. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que c'est un moment important pour la démocratie en Amérique ou qu'elle a été tellement abîmée, cette démocratie, qu'elle n'en sortira pas indemne ?
C'est la bonne question. On est un peu suspendu au résultat et ici l'Amérique. Excusez-moi, je m'entends en écho.
Vous vous entendez en écho, mais on vous entend parfaitement bien nous de ce côté-ci de l'Atlantique. D'accord. Et à la radio sur France Inter.
Donc ici nous on est suspendu au résultat. On attend mardi savoir comment est-ce que ça va tourner. Mais il faut comprendre que cette élection, elle a commencé il y a longtemps. Il y a plus d'un an, on avait déjà les primaires démocrates qui étaient parfaitement lancées et de manière générale, le peuple démocrate est lancé dans cette mobilisation pour reprendre la Maison Blanche depuis maintenant 4 ans. Et donc en fait, on a véritablement, non seulement il nous reste 3 petits jours, mais le suspense est insoutenable maintenant. Ouais. Parce que ça fait si longtemps qu'il y a une mobilisation générale de la population démocrate Et puis, cette campagne s'est faite dans des conditions extrêmement difficiles, avec un président qui est omniprésent sur tous les médias et qui a épuisé son peuple, je pense qu'on peut le dire. Il a évidemment encore une base de soutien très forte qui lui voue un culte qui ne s'est pas affaibli en 4 ans et qui a même grandi. Mais le reste de la population, je pense, arrive à un moment où elle espère un tournant ou au minimum ne plus entendre parler de politique.
Gilles Finkelstein, puis Natacha Polony. Gilles.
Oui, Célia Belin, bonjour. Vous avez dit 2 choses là. Vous avez dit il y a un suspense insoutenable. J'ai une question simple. On est à 3 jours du vote, même si Ali Badou le disait tout à l'heure, énormément d'Américains ont déjà voté. Donc à 3 jours du vote, où en est-on? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? On a besoin, je dois le dire, ici, de bonnes nouvelles, parce que la semaine a été lourde. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état du rapport de force? Et deuxième question, vous avez dit, la campagne a commencé il y a longtemps. Est-ce que la campagne, au sens strict, ce qui s'est passé ces dernières semaines, est-ce que ça a changé? Et il s'est passé des choses. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Ou est-ce que ce qui était vraiment structurant s'est passé avant?
Célia Belin.
Alors, Joe Biden est en avance. Il est en avance au niveau national et c'est, si vous voulez, une bonne nouvelle parce que il y a un espoir certainement en France, en Europe, de changement de président pour retrouver un président américain qui aurait une vision du leadership américain qui soit une vision positive et puis peut-être pour le peuple américain aussi la fin des divisions politiques les plus dures. Donc Joe Biden est en avance au niveau national et cette avance ne s'est pas n'a pas évolué depuis son entrée en course officielle après la fin des primaires, c'est-à-dire depuis le mois de mars. Joe Biden fait la course en tête entre 5, 6, 7 points d'avance par rapport à Donald Trump, avec finalement des courbes qui ne se sont jamais croisées, qui ont été parfaitement stables et parallèles, même s'il y a eu un rapprochement au moment de la crise, la première crise du coronavirus en mars-avril, parce que il y a eu un effet de ralliement autour du drapeau, autour de Donald Trump en pleine crise, mais les courbes ne se sont pas inversées et de toute façon, Joe Biden est en tête. Il est en tête nationalement, mais c'est une carte électorale. Il faut gagner le collège électoral et donc l'important, ce sont quels États sont en jeu. On a des États, les États dans lesquels on savait que la course se ferait, qui sont le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, où on a Joe Biden qui est à 4-5% d'avance. On a maintenant aussi des États où Donald Trump joue en défensif alors qu'il aurait pu les sécuriser. C'est la Caroline du Nord, la Floride ou encore l'Arizona. Et puis, on commence à entendre parler d'États qui sont de manière très surprenante mis en jeu par le travail de terrain qui a été mené par les démocrates et c'est en particulier la Géorgie ou le Texas. Le Texas, c'est quand même 38 grands électeurs, donc ce serait un énorme morceau si Donald Trump perdait le Texas, ce serait entièrement basculer l'élection. C'est encore peu probable. Donald Trump est encore devant, mais à 1 ou 2 points de pourcentage. Et dans tous les autres États que j'ai cités, Joe Biden est en avance, même si ça s'est assez fortement resserré dans les derniers jours.
Donc le pire n'est pas certain.
Le pire n'est pas du tout certain. Je pense que, en fait, la réalité, c'est que les observateurs sont absolument traumatisés par 2016, puisqu'en 2016, Hillary Clinton était donnée gagnante, grande gagnante, et que du coup, je pense que les situations sont entièrement différentes. C'était une élection ouverte avec deux candidats qui étaient absolument détestés par une grande partie de la population. Hillary Clinton elle-même était très controversée dans son camp. Oui. Il y avait aussi une fatigue d'Obama. Après 8 ans de démocrate, les Américains aiment bien l'alternance. Ils avaient envie de voter républicain. Et on croyait à la victoire d'Hillary Clinton uniquement à cause de l'ignominie de Donald Trump, qui nous semblait être un personnage qui ne pourrait pas devenir président des États-Unis. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Joe Biden a une avance beaucoup plus nette. On a un camp démocrate qui est rassemblé, qui est extrêmement enthousiaste à l'idée de licencier Donald Trump, de lui dire de quitter la Maison Blanche. C'est un référendum sur Donald Trump et il est plutôt en train de le perdre. Mais c'est une élection à la carte électorale et la carte électorale joue très défavorablement contre les démocrates. Et les démocrates ont toujours à gagner bien davantage que les républicains pour espérer l'emporter.
Et on connaît la complexité effectivement du système électoral présidentiel américain. Natasha Polony.
Oui, je pense que ce qui frappe quand on regarde ce qu'a été la présidence de Donald Trump, c'est l'hystérisation de la vie politique américaine et la fragilisation de la démocratie, dont il n'est, me semble-t-il, que le symptôme extrême. Mais la question est de savoir comment on empêche la fracturation du pays, la dérive des continents entre des populations qui n'ont plus les mêmes aspirations, qui n'ont pas les mêmes enjeux sociaux, politiques, économiques, et comment les institutions peuvent rassembler et garder un équilibre. On s'aperçoit à quel point, en fait, la montée de l'abstention, mais c'est pas vrai seulement pour les États-Unis, et je pense que la France devrait s'en inquiéter, la montée de l'abstention renforce la part la plus radicale de chaque parti, et c'est ce qu'on a vu évidemment avec le Tea Party d'abord et ensuite les extrémistes suprémacistes qui soutiennent Trump, mais c'est vrai aussi de l'autre côté. Donc vous avez souligné dans vos travaux à quel point les démocrates ont travaillé sur la question institutionnelle. Est-ce qu'ils sont en mesure de proposer des changements qui permettraient de ressouder le pays? Il me semble que c'est l'enjeu au-delà du duel Trump-Biden.
Célia Belin.
Alors c'est un pays qui est épuisé, qui arrive à cette élection présidentielle mardi, épuisé parce que vous l'avez dit, il y a une vie politique qui d'abord a pris une ampleur considérable. Aux États-Unis, on a l'habitude, quand on n'est pas à Washington, que le quotidien soit concentré sur les questions économiques, mais c'est un pays continent qui s'intéresse pas du tout à la politique étrangère et encore moins à ce qui se passe à Washington. Les républicains souhaitent avant tout avoir un gouvernement le plus petit possible pour qu'il n'entrave pas les efforts du reste du pays. Et puis les démocrates, eux, veulent simplement libérer leurs différentes communautés pour qu'elles puissent vivre de la manière dont elles le souhaitent et encore une fois avec quelques grands programmes sociaux. Mais ce qui se passe, comme on dit « inside the beltway », à l'intérieur du périphérique, ici à Washington, ça n'intéresse pas les Américains.
Mais on a vu malgré tout des ventes d'armes exploser et des milices se constituer dans un camp et même dans l'autre, même chez les démocrates, chez certains démocrates qui n'étaient pas habitués à ce type de mobilisation. On a vraiment le sentiment d'une fracturation qui pourrait aboutir à des tensions sans aller jusqu'à employer des très grandes expressions très graves comme guerre civile, mais en tout cas des conflits durs, violents entre les camps.
Oui, la vie politique est entrée chez chacun des Américains et en grande partie parce que l'opposition, qui était une opposition partisane et qui pendant des décennies aux États-Unis, l'opposition partisane, elle était très souvent formelle. On se souvient très bien qu'il y a des démocrates qui s'avéraient être souvent plus conservateurs que certains républicains qui pouvaient, en fonction de là où ils étaient élus, être progressistes. Et puis au milieu, il y avait une sorte de capacité à travailler avec l'opposition, donc une tradition de travail bipartisan, notamment au Congrès. Tout ça a complètement explosé. Les deux camps maintenant sont entièrement séparés. On a une polarisation partisane qui est unique et qui du coup a creusé des camps dans la société américaine avec un combat pratiquement identitaire entre deux clans. Et aujourd'hui, c'est vraiment les Trumpistes contre les anti-Trumpistes. Et qu'est-ce que c'est que les Trumpistes? Ce sont avant tout ce que j'appelle des nationalistes identitaires, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent sur cette idéologie nationaliste, America First, qui a été mis en avant par Donald Trump, mais également sur des questions identitaires avec un rejet de toutes les minorités qui ne sont pas la leur. Oui. Et un grand écrivain américain, Ta-Nehisi Coates, parlait de Donald Trump comme le premier président blanc, puisque c'est le premier qui agite le conflit racial en tant que président blanc pour se faire élire. Et donc ce parti de Ronald Reagan, qui était le parti de républicain, est devenu le parti de Donald Trump, un parti qui est uni autour d'une coalition désormais qui est faite entre quelques puissances d'argent qui est très contente des baisses d'impôts et de la dérégulation massive, la droite chrétienne, à laquelle il a donné de très nombreux juges dans les cours fédérales, et puis bientôt, enfin maintenant, trois juges à la Cour suprême, et les nationalistes identitaires. Et c'est vraiment cette coalition qui est derrière Donald Trump. Mais je voulais revenir sur un point, la première question de Gilles à laquelle j'ai pas répondu, c'est qu'il y a eu la campagne. Et la campagne, elle a compté pour fissurer cette coalition en partie, pas totalement, elle est encore très forte et Donald Trump a toujours une base électorale très forte, mais il y a un doute quand même sur la capacité à Donald Trump à continuer à être président, parce que la première crise à laquelle il a dû faire face, la première véritable crise de sa présidence, c'est la crise du coronavirus. Toutes les autres crises, contre la Corée du Nord, contre l'Iran, c'était des crises qu'il avait auto-générées en fonction de ce que lui avait pu faire sur la scène internationale. Là, c'est une crise qui vient de l'extérieur et sa gestion de cette crise est calamiteuse. Et 9 mois après le début, on est... nous, ici, dans la troisième vague, la vie de millions d'Américains n'a pas changé depuis le mois de mars. Ils ne travaillent pas ou peu ou ont perdu leur emploi. Leurs enfants ne vont pas à l'école, ils sont en école virtuelle. Les inégalités s'accroissent, qui étaient déjà très fortes, s'accroissent à une vitesse phénoménale.
Oui.
Et Donald Trump dit que le coronavirus, c'est terminé, on est passé à autre chose. Il y a 1000 morts par jour. Et 90 000 nouveaux cas par jour, et ça ne compte pas, ce n'est pas important.
Et c'est la raison pour laquelle, justement, je voulais qu'on entende Joe Biden et son discours qui portait justement le fer sur cette question des plus de 200 000 morts américains du coronavirus et la gestion calamiteuse de la crise sanitaire par l'administration Trump. Gilles, il nous reste une dizaine de minutes, des questions et des réponses un peu plus concises pour que nous puissions aborder encore beaucoup de questions à vous poser, Célia Belin. Gilles.
Question courte. Quand on vous entend sur l'analyse du rapport de force, on voit à la fois avance très nette au niveau du vote populaire pour Biden, avance dans les États à la fois du Nord-Est qui avait donné la victoire à Trump et même dans des États du Sud. Donc le scénario le plus probable, on dit ça avec prudence, mais le scénario le plus probable, c'est une victoire de Biden. Et donc c'est justement sur Biden que je voudrais vous interroger. Vous avez consacré votre livre qui s'appelle « Des démocrates en Amérique ». Sur le camp démocrate, vous dites que les démocrates ont beaucoup travailler. Le programme de Joe Biden est-il dans la continuité de celui d'Hillary Clinton, ou est-ce qu'il y a eu une inflexion vers la gauche des démocrates? Quelle a été la place de ce programme dans la campagne? Et enfin, est-ce que la gauche des démocrates, ceux qui ont été battus à l'occasion des primaires, et notamment Bernie Sanders, sont aussi engagés dans la campagne de Joe Biden?
Célia Belin.
Alors c'est vrai que les primaires de 2019 qui se sont terminées en début 2020 ont fait émerger une très grande un foisonnement d'idées nouvelles au sein du Parti démocrate, qui était en construction depuis la victoire de Donald Trump, parce que cette victoire en 2016 a été un électrochoc et que les démocrates se sont mis en ordre de bataille pour travailler en particulier dans trois directions. Sur la question de la refonte du système économique, sur la question de la refonte du système démocratique et des institutions. Et Natacha Apollonie me demandait, et donc en effet, les démocrates ont tout un champ très important sur de réflexion sur la suppression du collège électoral, la suppression du filibuster, certaines techniques.
Qu'est-ce que c'est le filibuster?
C'est la manière qu'a la minorité d'empêcher la tenue d'un vote, l'obstruction. Non, mais c'est légal, la tenue d'un vote. Donc, il faut 60 sénateurs pour faire passer une loi. Et ça oblige, en fait, à une négociation entre les deux partis. Ça permet l'émergence d'un consensus bipartisan. Mais à une époque hyperpartisane et de division, en fait, ça empêche le pays de fonctionner.
D'accord.
Puisque plus aucune loi ne peut passer de cette manière-là. Et donc, le dernier point, c'est toutes les nouvelles problématiques raciales. Et donc, en un mot, ces grandes idées étaient avant tout portées et sont avant tout portées par la base progressiste, la gauche de la gauche aux États-Unis. Or, Joe Biden, ce n'est pas ça. et il a gagné en tant que candidat du Rassemblement, mais il se trouve maintenant à devoir composer entre les modérés et la base progressiste, et il va devoir, au lendemain de son élection, si on espère qu'elle soit rapide et nette et claire, il y aura immédiatement une bataille interne pour savoir qui va avoir les postes, qui va apporter quelles idées. Et il y a énormément d'idées qui attendent d'être mises en place.
C'est intéressant. Et justement, avant d'en venir à cette question sur le trumpisme que je voulais vous poser, est-ce que le trumpisme durera au-delà de la présidentielle, au-delà même du destin de Donald Trump ? Question de Natacha Polony.
Oui, question sur Joe Biden toujours et sur ce que serait une présidence Joe Biden. Sur les questions internationales qui sont absolument fondamentales pour nous Européens, Joe Biden se situe dans la droite ligne de ce qu'a pu être Barack Obama. Mais est-ce que ce serait si différent, au-delà des apparences hystériques, d'une présidence Trump ? Est-ce que ce serait si différent dans la mesure où, même si Joe Biden met en avant dans son programme la question du dialogue avec les démocraties, enfin divers poncifs assez basiques, on s'aperçoit quand même que sur les questions européennes, justement, il est dans la lignée d'Obama et il continue à être extrêmement méfiant vis-à-vis d'une défense européenne, préférant privilégier l'OTAN, ce qui va poser des problèmes, notamment étant donné la situation de la Turquie, sur les questions même alors d'extraterritorialité du droit. C'est pas Trump qui a inventé ça, ça existait déjà avant. Est-ce que la pression et l'impérialisme économique américain va continuer? Très certainement. Et sur la question plus largement économique, en fait, Trump a eu une pratique qui était assez peu protectionniste. Biden, dans un sens, se situe à la fin d'une ère néolibérale. Là, pour le coup, est-ce qu'il va dans quel sens va-t-il aller? Plus de libre-échange ou une continuité avec Donald Trump? Là aussi, la question se pose.
Votre réponse, Célia Belin?
Alors, il est vrai qu'il y aura une continuité parce que il y a eu un grand balancier aux États-Unis en direction de davantage de protectionnisme et d'une volonté aussi de réduire au maximum les interventions américaines à l'étranger, en particulier au Moyen-Orient. Mettre fin aux guerres sans fin, c'est ce qu'on entend partout et on l'entend aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Donc, il y aura une volonté de ramener les troupes à la maison et de surtout ne pas se réengager dans ce qui pourrait être une grande guerre. Ça, on aura la continuité entre Biden et Trump, tout comme on l'avait sur la question des interventions entre Obama et Trump. Simplement, il y aura un contraste très fort dans le sens où on devrait retrouver sous un Joe Biden, ce qu'on connaissait déjà sous Obama, qui est une diplomatie active et un réengagement des États-Unis dans l'ensemble, non seulement des institutions multilatérales, mais aussi des relations bilatérales et de tous les dossiers qui sont aujourd'hui en souffrance, en partie parce que les États-Unis ne s'en préoccupent pas, ou s'ils s'en préoccupent, ils ont une attitude transactionnelle qui leur permet de tirer leurs intérêts, de maximiser leurs intérêts nationaux à court terme et pas nécessairement de stabiliser les situations. Je prends comme exemple la Turquie dans l'OTAN, qui est le grand point d'interrogation et donc qui aujourd'hui attendent de savoir ce que l'allié américain pense de la Turquie dans l'OTAN et des tensions qu'il y a aujourd'hui entre les alliés. Et en l'absence d'un leadership américain, on voit bien qu'il y a un délitement. Mais je voulais rajouter que ce ne sera pas seulement un troisième mandat d'Obama, Joe Biden, c'est qu'il a derrière lui, encore une fois, une nouvelle garde qui attend de venir aux affaires, non seulement des progressistes, mais aussi des gens d'une génération nouvelle qui savent très bien que le monde a changé. Et ces gens-là ont deux points principaux. Ils sont d'abord très orientés sur les questions géoéconomiques. Ils pensent que pour faire la compétition avec la Chine, il faut réinvestir partout, dans le cyber, dans l'économie, ouais, mais aussi en interne, dans les infrastructures, dans l'éducation, faire un pays fort.
L'émission touche à son terme, Célia Belin.
Oui, pardon. Donc, et aussi lutter contre la corruption à l'étranger. Donc Joe Biden, c'est un peu plus qu'Obama.
D'un mot, Célia Benin, puisque vous habitez à Washington DC, il y a des papiers nombreux, notamment celui de l'AFP ce matin, qui décrivent une ambiance extrêmement tendue avec une ville, la capitale américaine, qui se barricade de crainte de violence, des bruits de marteaux, de perceuses, de scie sauteuses. Voici la bande-son de la capitale américaine à quelques jours de l'élection présidentielle, écrivent les journalistes de l'AFP, avec une quantité impressionnante de magasins du centre-ville de Washington qui protègent leurs vitrines avec des planches de bois. Ils ont peur de manifestations qui dégénéreraient de conflits. Est-ce que vous ressentez cette nervosité vous-même dans la ville où vous habitez ?
Pas dans le quartier où j'habite, il y a quand même une grande partie de Washington qui est très tranquille, je vous rassure tout de suite, parce que on parle de manifestations qui pourraient avoir lieu devant la Maison Blanche. Simplement, ces quelques rues-là sont en effet cruciales. Les autorités redoutent deux phénomènes. Le phénomène des électeurs de Donald Trump qui iraient vers de la violence, peut-être par frustration, et qui, on l'a vu, parce qu'il y a eu de nombreux projets, des projets de kidnapping, des projets d'assassinat de Joe Biden. Et donc, il y a des milices nationalistes actuellement qui sont aux États-Unis très motivées. Et de l'autre côté, les républicains ont peur d'un grand mouvement, si Donald Trump venait à l'emporter, d'une révolution de couleur avec des milliers de gens comme dans Black Lives Matter qui reprendraient les rues et peut-être seraient violents. Les deux camps se regardent, ont très peur l'un de l'autre. Et en effet, on sent que le temps est suspendu et que tout ça pourrait
On va devoir malheureusement rester là. Le temps est suspendu. Mais en tout cas, merci de nous avoir accordé de votre temps, Célia Belin. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous depuis Washington, des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump. C'est votre livre publié chez Fayard. Merci les amis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à suivre sur Inter, le journal.